magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Il y a quelques semaines, les autorités françaises se réjouissaient du retour des touristes dans les rues de Paris. Rares sont les gouvernements à ne pas tout faire pour attirer ces promeneurs quand ils désertent, comme après les attentats du mois de novembre 2015 à Paris. Hôteliers et restaurateurs pleurent misère. Écoutez le témoignage, quelques mois plus tard, d'Evelyne Maes, une hôtelière parisienne.
La saison estivale a été catastrophique. Je suis dans la profession depuis 77. C'est la pire saison que nous ayons vécue.
Des économies entières peuvent être affectées, comme en Tunisie après les attentats de Sousse au mois de juin 2015. En Côte d'Ivoire, en mars 2017, un an après les attentats de Grand Bassam, le patron de l'hôtel La Croix du Sud, Jacques Ablé, faisait un constat amer.
C'est vrai que les plages sont très fréquentées. Il y a du monde sur les plages. Mais les hôtels ne sont pas fréquentés. On est toujours à un taux d'occupation entre 20-25%, dû au fait que quand on dit « on va dormir à l'étoile du Sud », les gens sont réticents.
En même temps, le tourisme de masse, ce phénomène croissant, suscite l'irritation des habitants de Venise, de Barcelone ou de Bali en Indonésie. Dans la capitale catalane, la maire a pris des mesures pour essayer de réduire cet afflux qui renchérit le coût du logement. C'était avant l'attentat des Ramblas, le 17 août dernier. On n'en est pas tout à fait là dans les pays en développement. Nombre d'entre eux entendent fonder leur croissance sur les devises générées par le tourisme. Alors est-ce un bon choix? Les emplois générés sont-ils pérennes? L'aménagement du territoire qui en découle ne privilégie-t-il pas le court terme? Le tourisme n'est-ce pas la richesse des pauvres? Le tourisme facteur de développement ou de mal-développement avec un point d'interrogation? Voici les questions que je vais poser aux deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Maria Gravary-Barbaz.
Bonjour.
Maria Gravary-Barbaz, vous êtes professeure de géographie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où vous dirigez la chaire Tourisme, Culture, Développement de l'UNESCO. Vous dirigez par ailleurs l'équipe interdisciplinaire de recherche sur l'économie du tourisme. Qu'est-ce que le tourisme a à voir avec la géographie ?
Alors, la géographie a beaucoup de choses à voir avec le tourisme. Le tourisme est tout d'abord un phénomène spatial et on ne peut pas le comprendre si on ne comprend pas de quelle façon il se développe autour du monde. Tous les phénomènes de concentration touristique sont aussi des phénomènes géographiques.
Alors avec nous dans ce studio, Monder Sali, bonjour.
Bonjour.
Monder Sali, vous êtes professeur associé à la Victoria University de Wellington en Nouvelle-Zélande où vous enseignez l'économie du tourisme. Vous êtes de passage à Paris et vous nous consacrez un peu de votre temps. Merci beaucoup. Vos recherches portent essentiellement sur les retombées économiques du tourisme dans le contexte des pays en développement. Vous êtes aussi le secrétaire général de l'Association internationale des chercheurs qui travaillent sur l'économie du tourisme. Est-ce que la Nouvelle-Zélande, est-ce que Wellington est un bon point d'observation des phénomènes touristiques mondiaux?
Oui, bonjour tout d'abord, ou kia ora.
Kia ora en maori.
En maori. Alors oui, en effet, la Nouvelle-Zélande aujourd'hui est une destination qui est très importante. Hein, si on vérifie ou si on regarde les statistiques sur le tourisme international, la Nouvelle-Zélande a connu un essor très très important au cours de ces dernières années, et notamment la ville de Wellington.
Alors, au cours de cette émission des reportages, évidemment, nous irons rejoindre Lou Garçon à Dakar, Eric Sanson à Quito en Équateur et Joël Bronner à Bali.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Alors, on va d'abord commencer à essayer de voir les choses de manière positive, Maria Gravary-Barbaz. Le tourisme, c'est d'abord une richesse ?
Le tourisme est incontestablement une richesse.
Pourquoi ?
Pour tout un ensemble de raisons, parce que si nous nous positionnons tout d'abord, comme vous le proposiez, à l'échelle des pays en voie de développement, aujourd'hui, c'est clairement l'industrie, entre guillemets, qui est véritablement à la portée de la plupart de ces pays. Donc, il peut être un moyen de développement, mais pas de façon évidente, ni de façon automatique.
Monder Sali, le tourisme, c'est une richesse pour les pays en développement ?
Oui, c'est un secteur qui apporte certains avantages, notamment en termes de devises, de création d'emplois, d'infrastructures, d'apports en termes de recettes fiscales. Mais il a aussi des coûts.
Alors, est-ce que vous le voyez beaucoup se développer, le tourisme, dans les pays en développement ?
Tout à fait. Si on consulte les dernières statistiques sur le tourisme international dans les pays en développement, enfin, la part en termes de recettes et d'arrivées de ces pays-là n'a cessé d'augmenter au cours de ces 50 dernières années. Et aujourd'hui, le tourisme est un secteur clé dans un grand nombre de pays en développement, notamment les PMA, les pays les moins avancés.
Maria Gravary-Barbas, la géographe que vous êtes, est-ce qu'elle le constate ? Alors quand on parle géographie, on pense immédiatement carte géographique. Vous, sur les cartes géographiques, sur les cartes des flux mondiaux, vous le constatez, cette croissance du tourisme dans les pays en développement ?
Bien sûr, et c'est effectivement quelque chose qui est extrêmement interpellant comme phénomène. Comme vient de le dire M. Sadi, effectivement, aujourd'hui, quand on regarde un peu la part du tourisme entre pays développés et pays en voie de développement, nous voyons qu'encore aujourd'hui, les pays développés occupent la place du lion, la part du lion. Mais on voit également que les croissances à venir viendront de toute façon des pays en voie de développement. Pour dire les choses grosso modo, actuellement, les flux du tourisme représentent 1,2 milliard de touristes par an. Rien ne va arrêter cette croissance. Actuellement, 50% grosso modo de cette part du tourisme correspond, revient aux pays développés, mais la part des pays en voie de développement augmentera significativement dans les années à venir.
Est-ce que vous voulez nous dire que dans 20 ans, 30 ans, la part des pays aujourd'hui en développement sera plus importante que celle des pays développés ?
Écoutez, c'est tout à fait possible. Je peux donner comme exemple la Thaïlande. La Thaïlande occupe actuellement la troisième place. Elle était cinquième il y a très peu longtemps. Troisième place avec une croissance à deux chiffres, une croissance des 15% par an. Donc c'est effectivement tout à fait significatif.
Alors on disait, Monter Sali, tout à l'heure que le tourisme c'était une richesse. Quel genre de processus économique est-ce que ça déclenche quand un touriste arrive à l'aéroport, on parlait à l'instant de la Thaïlande, à l'aéroport de Bangkok ou de Wellington en Nouvelle-Zélande, qu'est-ce que ça déclenche comme processus d'enrichissement du pays ?
En termes de création de richesses, très souvent on parle de trois effets. Il y a l'effet direct, ça concerne les dépenses touristes dans les hôtels, les restaurants, les boutiques, le shopping, etc. Par la suite, ces hôtels, ces restaurants aussi achètent, s'approvisionnent auprès d'autres fournisseurs. Donc ça, c'est l'effet indirect. Et puis ces entreprises touristiques et les autres entreprises qui fournissent des biens et des services pour les hôtels, restaurants, etc., créent aussi des emplois supplémentaires dans l'économie. Et ces emplois génèrent donc une distribution de salaires et c'est ce qu'on appelle les effets induits. Les effets induits seraient dus aux dépenses des personnes qui travaillent soit directement ou indirectement dans le secteur touristique.
Donc ça peut générer de l'emploi dans l'agriculture, dans les transports, dans tous ces secteurs-là.
Tout à fait.
Tout à l'heure, vous parliez de la Thaïlande, Maria Gravary-Barbas. On va prendre un exemple, c'est celui du Sénégal, où les autorités ont l'ambition de faire du pays une grande destination touristique après des années de baisse de l'afflux de vacanciers. Des projets d'infrastructures visent à désenclaver certaines régions à fort potentiel, mais à Dakar, les opérateurs des lieux fréquentés traditionnellement par les touristes se plaignent de la baisse continue de la fréquentation et des retombées sur les finances des habitants. C'est un reportage Éco-d'ici, Éco-d'ailleurs, signé Lou Garçon à Dakar.
Nous sommes au village artisanal de Dakar sur la corniche face à l'océan. Seydou Nourouagne, antiquaire, se souvient d'une époque où les touristes venaient ici en bus faire des emplettes avant de gagner l'aéroport. Les affaires étaient alors bien meilleures, mais l'argent du tourisme n'a selon lui pas servi à développer ce quartier populaire de Dakar.
Les hôteliers, les restaurateurs, la location de véhicules, un peu les marchands d'objets d'art, ils se sont sentis, lui, concernés. Mais en dehors de ça...
En déclin depuis plusieurs années, le secteur du tourisme connaîtrait actuellement une période plus prospère selon les autorités sénégalaises. Au village artisanal, l'antiquaire Oumar Nian estime que les taxes sont trop lourdes et les billets d'avion pour venir au Sénégal bien trop chers et que les touristes sont encore trop peu nombreux pour qu'il y ait de réelles retombées économiques pour les populations.
Des pays comme le Kenya, des pays comme la Tunisie, des pays comme l'Égypte, peut-être maintenant ils sont frappés par l'effet du tourisme. C'est pour là qu'on ne parle plus de ces pays. Mais le tourisme est bel et bien un facteur de développement, comme l'est l'agriculture, la pêche et l'élevage. Ça dépend de la façon dont c'est exploité et ça dépend aussi de la promotion touristique.
À l'autre bout de la ville, le quartier de Ngor et son île accessible à la nage ou en pirogue, plage, bar, restaurant, petite location saisonnière, ici tout est réuni pour attirer les touristes. Babacar Samb, responsable de la location des pirogues, fait partie d'une famille de Ngor qui vivait jusqu'ici du tourisme et qui mise aujourd'hui sur la fréquentation de la zone par les Dakarois.
Parce que là, les touristes ne viennent pas, parce que les touristes ont peur de sortir, avec les Atlantas aussi. On gagne notre vie sur ça, sur de les faire traverser, aller amener à la pêche, ou bien de les faire des petites excursions.
Yadi Koundiaï est opérateur touristique à Ngor. Il confirme que le tourisme a ici été créateur d'emplois et que la baisse de la fréquentation porte un coup dur pour les finances des habitants.
Avec la crise, ce niveau de vie a beaucoup descendu, quoi. Tu vois, même sur les enfants, avant, tous les parents payaient leurs enfants dans les écoles privées. Mais maintenant, je vois la différence, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans les écoles publiques. Il y a beaucoup de gens d'Edmore qui ont fait travail maintenant à mi-temps. C'est à cause de cette baisse du tourisme aussi. Et en même temps aussi, il y a un autre facteur qu'on ne dit pas aussi. Il y a la pêche aussi qui baisse aussi. Parce qu'à cause des salutiers qui sont là à ramasser tous les petits poissons, Edmore, c'est un village touristique et un village de pêcheurs. Donc tout ça aussi, c'est de se savoir.
Victime de l'érosion côtière, de la dégradation de ses plages et de son espace maritime, le Sénégal a tout intérêt à miser sur la préservation de son environnement pour attirer les touristes et pour créer des emplois dans ce secteur.
Un reportage signé Lou Garçon à Dakar. On entendait un des intervenants, Monder Sali, dire les taxes sont trop élevées. Est-ce qu'il y a une bagarre entre l'État, le fisc et les activités traditionnelles qui servent le touriste pour capter une part croissante de l'argent qui est généré par le tourisme?
Très souvent, il y a un certain malaise que ressentent un grand nombre d'intervenants dans le secteur touristique dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce que ce secteur est une activité clé en termes de recettes d'exportation. Et très souvent, les hôteliers, les restaurateurs se voient payer une taxe assez élevée et ils trouvent que c'est incompréhensible qu'ils payent autant et qu'ils rapportent de l'argent mais qu'ils payent autant de taxes alors qu'ils contribuent indirectement à un grand nombre d'activités économiques.
Maria Gravary-Barbas, ce reportage faisait allusion à l'érosion, ce sont des phénomènes qui nuisent au tourisme finalement. C'est un problème, ce tourisme et la relation entre le tourisme et l'environnement?
Bien sûr. Alors la question de la relation entre tourisme et environnement est une question essentielle et cruciale. Et c'est une question, bien entendu, qui nécessite l'intervention d'un certain nombre d'acteurs. Les reportages que nous venons d'écouter me fait penser à un simple très fait, c'est-à-dire à un fait très simple, c'est-à-dire au fait que le tourisme pendant longtemps a été considéré comme une activité des cueillettes. On recueillait le nombre de personnes qui arrivaient à telle ou telle destination. Or, effectivement, aujourd'hui, le tourisme s'industrialise et, en l'occurrence, j'emploie ces termes de façon plutôt positive, c'est-à-dire se rationalise et correspond à certaines exigences des touristes eux-mêmes. Cela implique effectivement des actions tout à fait décisives de la part des pouvoirs locaux et de la part des États. Ces questions, en fait, environnementales ne peuvent pas être traitées, je dirais, s'il n'y a pas une intervention raisonnée et à un niveau centralisé, à un niveau étatique. Et malheureusement, très souvent, ce n'est pas le cas.
Monder Sali, vous êtes d'accord? Il faut plus d'intervention d'État dans la gestion des flux touristiques?
Tout à fait. Tout à fait. Il faut qu'il y ait une politique volontariste pour contrôler les impacts. Il y a des effets positifs, mais aussi des effets néfastes. Et donc, si on veut vraiment développer le tourisme dans le contexte des pays en développement, il faut essayer de maximiser les bénéfices, mais en même temps minimiser les coûts et réduire les risques sociaux, les risques environnementaux,
etc. Tout à l'heure, Maria Gravary-Barbas citait un chiffre, 1,2 milliard de touristes dans le monde, 50% dans les pays en développement. On peut faire confiance à ces statistiques?
Alors, justement, au niveau des statistiques, il y a un malaise au niveau international. Jusqu'à présent, on en parle très peu. Les statistiques du tourisme international ne sont pas fiables, parce que les méthodes d'estimation sont biaisées, même dans le cas des pays développés, le cas de la France par exemple.
Quand la France dit fanfaronne tous les ans en disant on est la première destination touristique mondiale, c'est faux.
Ce n'est pas sûr que ça soit vrai, parce qu'on ne sait pas exactement le nombre de touristes. Ce sont des estimations. On ne contrôle pas aux frontières chaque touriste qui passe. Et il y a à peu près 15 millions de touristes qui traversent la France et qui vont vers d'autres destinations. Alors, ces gens-là sont considérés comme des touristes. Pourquoi ? Parce qu'ils passent plus de 24 heures en France. Donc, ces estimations ne sont pas fiables. Alors, certains pays, surtout les économies insulaires, ils ont plus de contrôle, parce qu'il y a des aéroports, on sait plus ou moins le nombre de touristes. Mais même si on connaît le nombre de touristes, on a du mal à estimer les dépenses des touristes. Par exemple, en France, je sais que sur plus de 80 millions de touristes, en fait, les enquêtes portent seulement sur 80 000 touristes. Et à partir de là, on estime les dépenses moyennes par nationalité. Dans un pays comme par exemple la Tunisie,
que vous connaissez bien,
que je connais bien, j'ai eu du mal à convaincre les décideurs politiques à très haut niveau, même à niveau de Premier ministre, de les convaincre à revoir les méthodes d'analyse et d'évaluation de l'impact économique.
Alors, Maria Gravary-Barbas, si ces chiffres sont aussi flous, aussi inexacts, si on ne peut pas s'appuyer sur eux, comment les pays en développement peuvent-ils construire une industrie touristique ?
Alors, pour revenir un peu à la base de votre question, la difficulté véritable que nous avons lorsque nous évoquons ces chiffres, c'est déjà de se mettre d'accord sur ce qu'est un touriste. Et en fait, un enjeu majeur pour les universitaires que nous sommes est effectivement de pouvoir partir sur une définition qui fasse consensus. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Alors, quelles sont les définitions en présence ?
Les définitions celles qui génèrent ces statistiques que nous évoquions tout à l'heure reposent tout simplement sur une définition du touriste comme une personne qui passe plus de 24 heures donc dans un lieu de séjour. Et effectivement, nous avons des statistiques internationales qui reposent aussi beaucoup sur les passages par les frontières. La France est effectivement toujours, on ne sait pas pour combien de temps encore, considérée comme première destination touristique, entre autres pour les raisons que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire le passage d'un certain nombre de personnes qui ne vont pas séjourner en France, mais qui traversent la France. En même temps, cela a aussi des retombées. Et finalement, ces statistiques qui, prises de façon individuelle, sont très peu fiables, toutes ensemble donnent des ordres de grandeur qui finalement nous permettent de comprendre dans quel sens va le tourisme. Et nous permettent également de voir quels sont les équilibres entre, par exemple, nombre de touristes et dépenses, et de faire aussi les ratios entre les 10 premiers pays en termes de nombre de touristes et les 10 premiers pays en termes de dépenses. Et c'est là où on voit qu'il y a une grande corrélation, dans le sens où quand même 8 des 10 pays qui attirent les plus de touristes sont aussi les pays qui sont les mieux classés en termes de dépenses touristiques. Donc on trouve des cohérences dans ces grands chiffres, même si effectivement il y a une marge d'erreur qui est tout à fait considérable.
Mon père Salim.
Je pense à un exemple. Par exemple, au niveau de l'OCDE, aujourd'hui, on publie des données bilatérales sur le tourisme international. C'est-à-dire, par exemple, les recettes touristiques émanant des Italiens qui visitent la France. Et puis, ça concerne aussi
les pays en développement, ça concerne aussi.
L'OCDE,
c'est les pays développés, mais est-ce qu'il y a des chiffres bilatéraux sur les pays en développement ?
Oui, mais ces données ne sont pas fiables. Pourquoi ? Même dans le cas des pays développés, par exemple, quand on compare les chiffres émanant des autorités italiennes avec celles qui émanent des autorités françaises, elles ne sont pas souvent compatibles. Pourquoi ? Parce que les méthodes d'estimation ne sont pas les mêmes. Souvent, on se trouve en face de ces difficultés en matière de comparaison de données entre pays.
Alors, ces difficultés de comparaison, elles vont vraisemblablement nous amener à parler dans la deuxième partie de l'émission des difficultés que provoque ce tourisme. C'est la fin de la première partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs, consacrée à la nouvelle religion qu'est le tourisme. Nous en parlerons dans 3 minutes après un flash d'actualité. À tout de suite.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous parlons d'une nouvelle religion, la religion du tourisme. Partout dans le monde, cette activité est présentée comme une manne incontournable, comme une panacée. Dans les pays en développement, le tourisme est souvent considéré comme un des piliers de la croissance économique. Nous avons vu ça au cours de la première partie de l'émission avec les deux invités en studio, dont je vous rappelle qu'ils sont Maria Gravary-Barbas, professeure de géographie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où elle occupe la chaire tourisme développement et culture de l'UNESCO, et Monder Sali, professeur associé d'économie à la Victoria University de Wellington. Une question pour tous les deux pour démarrer cette deuxième partie. Monder Sali, quel rôle joue le tourisme dans la globalisation de l'économie ? Est-ce que le fait qu'il y ait des gens qui se promènent partout dans le monde joue un rôle dans ce qu'on appelle la globalisation ?
Oui, la globalisation dans le domaine du tourisme touche d'abord les flux touristiques, la mobilité des consommateurs, la mobilité internationale des consommateurs, mais ça va au-delà de la mobilité des consommateurs. Aujourd'hui, on parle beaucoup de multinationales dans le domaine de l'hôtellerie, dans le domaine de la restauration, dans le domaine de la distribution. Aujourd'hui, quand vous achetez votre billet d'avion sur Expedia ou sur autre site, vous ne savez pas la nationalité de cette compagnie. Donc, en fin de compte, vous achetez un produit composite qui est conçu par différentes sociétés qui se trouvent dans différents pays. Il y a beaucoup de migrations liées au développement touristique. Il y a des gens qui se déplacent dans d'autres pays pour travailler dans le domaine du tourisme.
Maria Gravary.
La question du tourisme m'intéresse tout particulièrement dans ses impacts sur la globalisation par l'effet qu'elle induit sur les cultures locales et le patrimoine. Une partie des activités que nous développons dans les cadres de la chaire Culture, Tourisme, Développement est justement de voir de quelle façon le tourisme est un agent de globalisation et presque de production de ces nouveaux patrimoines, de ces nouvelles cultures qui sont parfois effectivement des effets induits par le tourisme. On a ici des phénomènes qui sont vraiment extraordinaires. Bien entendu, il y a derrière tout un ensemble de facteurs qui vont dans ce sens-là. Vous évoquiez tout à l'heure l'UNESCO, et effectivement, la question du patrimoine mondial de l'UNESCO intervient énormément dans cette globalisation culturelle. Donc on a des phénomènes qui sont vraiment extrêmement intéressants, émergents dans certains pays, et nous voyons par exemple que certains pays émergents, j'étais récemment au Timor oriental, le Timor oriental est aujourd'hui un pays totalement fermé au tourisme, mais avec des véritables intentions, en fait, de se mettre au tourisme, de développer un tourisme. Un des premiers aspects, en fait, qu'ils vont développer pour faire un peu cette espèce de coming out touristique, ce sera de pouvoir, en fait, désigner des lieux qui pourraient être qualifiés au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, ces labels internationaux jouent aujourd'hui un rôle majeur dans le développement du tourisme.
Nous allons partir tout de suite sur un de ces sites touristiques. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, l'Amérique latine est la région où la croissance du tourisme a été la plus forte ces dernières années. De 2007-2008 jusqu'en 2014, le pays a vu ses chiffres de fréquentation touristique progresser de 10% par an, grâce en partie à une forte activité de promotion. Mais la tendance est inversée il y a 3 ans, et l'Équateur cherche aujourd'hui son chemin entre tourisme massif et tourisme d'élite. Un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Eric Sanson à Quito.
Longtemps dépendant du pétrole et de quelques matières premières, comme la banane, le thon ou la crevette, l'Équateur a toujours été un pays touristique, mais à la marge. Ces dernières années ont été compliquées, confirme Ivan Lopez, directeur de la Fédération des chambres de tourisme.
Le tremblement de terre d'avril 2016 n'a pas aidé. Ni l'épidémie de Zika, l'éruption du Cotopaxi et des problèmes de communication lors de faits divers touchant des touristes. Tout cela a diminué le désir de visiter le pays. Et puis il y a aussi eu la crise économique qui a diminué les budgets permettant de faire une promotion suffisante dans les pays d'origine des touristes.
Le nouveau gouvernement a cependant l'intention de changer la donne, selon Juan Carlos Valdivieso, qui dirige la carrière d'administration touristique de l'Université San Francisco de Quito.
L'intention du ministère est d'augmenter le nombre de touristes pour qu'il y ait plus de devises dans le pays. Son objectif est très ambitieux, sans doute trop. Mais en tout cas, le ministère du Tourisme a lancé une politique officielle qui s'appelle le 1 pour 1. L'objectif est de faire entrer un touriste pour un habitant.
L'Équateur a officiellement reçu 1,4 million de touristes l'an dernier, dont beaucoup, vénézuéliens, haïtiens, sont en fait des réfugiés économiques. Ayant une population de 16 millions d'habitants, il lui faudrait donc multiplier par 10 au minimum le nombre de touristes pour atteindre l'objectif officiel. Un objectif peu réaliste à court terme, selon le député officialiste Jorge Yunda, mais qui a le mérite de changer certaines priorités.
Je considère que le prix du pétrole ne va plus atteindre les sommets que l'on a connus ces dernières années à 120, 130 dollars le baril. Je crois que le pétrole ne va plus être la richesse que l'on espérait. En revanche, le tourisme peut être une source infinie de ressources, le pétrole du futur.
Jorge Yunda ne croit pas au tourisme de masse en Équateur, c'est aussi le cas d'Ivan Lopez.
Le tourisme en Équateur est axé autour de la nature et de la culture. C'est incompatible avec le tourisme de masse, même si nous avons besoin d'augmenter le nombre de visiteurs dans le pays pour faire du tourisme la première source de devises de l'économie nationale.
Et s'il est une destination touristique incompatible avec le tourisme de masse, c'est bien l'archipel des Galapagos. Günter Reck y a longtemps vécu. Pour cet ancien directeur de la Fondation Charles Darwin, on pourrait augmenter encore un peu le nombre de visiteurs, les sites de visite étant encore très bien conservés. Pour lui, le problème est ailleurs, c'est la présence de quelques 30 000 habitants sur l'archipel.
Une grande partie de cette augmentation de la population est due à l'augmentation de l'activité touristique. Il y a environ 3 000 touristes chaque jour, soit 10% de la population, et il faut s'en occuper, c'est compliqué aux Galapagos.
Entre les volcans, l'Amazonie et les cités coloniales, l'Équateur ne manque pas d'atouts, même s'il lui faut encore offrir de nouvelles expériences aux visiteurs qui se lassent rapidement. Le pays a encore une marge importante de croissance, sans tomber dans les abus du tourisme de masse.
Un reportage signé Eric Sanson à Quito. Le pétrole est remplacé par le tourisme. Est-ce que le tourisme est le nouveau pétrole de ces pays-là? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dépendance à ces flux qui sont malgré tout très irréguliers, qui peuvent dépendre d'une maladie, d'un tremblement de terre, Maria Gravary-Barbas?
Mais bien entendu. Là encore, il faut partir de la base. Le tourisme est une activité, et comme toutes les activités économiques, il doit se planifier. Donc on ne peut pas donner une réponse générale, mais il faut dire que effectivement, dans la plupart des pays, cette identification du tourisme comme un des secteurs prioritaires pour le développement de l'économie doit absolument être accompagnée par tout un ensemble de mesures. Évidemment, je comprends tout à fait les craintes des personnes qui ont été interviewées. Il va de soi que l'Équateur a été développé jusqu'à maintenant sur un profil économique beaucoup plus bas et sur cette finalement orientation de tourisme communautaire qui a plutôt bien fonctionné avec une structure finalement, une structuration plutôt de ce tourisme communautaire tout à fait intéressante dans le pays. Donc ces passages éventuels vers un tourisme de masse sans qu'il y ait une planification, cela peut poser problème. Surtout pour les Galapagos.
Quel genre de problème?
Alors, pour prendre
l'exemple... Pour les Galapagos, on comprend, c'est une zone très préservée avec une nature exceptionnelle. Alors s'il y a un afflux de touristes, ça peut la détruire. Mais pour le reste du pays?
On peut raisonner exactement de la même façon pour les restes du pays. Nous avons quand même un pays qui a des ressources extraordinaires en termes de biodiversité et en termes effectivement de patrimoine naturel. Donc tout ceci implique une planification et c'est là où, dans la plupart des cas, nous avons un maillon faible, si j'ose dire.
Mander Sali, il y a des aspects négatifs à cet afflux potentiel de touristes sur le plan économique. Est-ce que ça ne va pas pervertir l'économie de ce pays comme d'autres pays?
Justement, je pense que le tourisme peut offrir des opportunités pour ces pays, mais il faut aussi se mettre dans la tête que les pays doivent aussi éviter d'être enfermés dans une hyper spécialisation. Pourquoi? Parce que le tourisme est un secteur qui reste tout de même fragile. Et puis, lorsqu'on développe le tourisme, ça se fait aux dépens d'autres activités économiques. Et
Par exemple, quand on construit un complexe hôtelier, ça peut être au détriment de quelque chose d'autre?
Oui, si par exemple, je prends par exemple la région d'Hammamet en Tunisie. Le développement touristique s'est fait aux dépens de l'agriculture. Pourquoi? Parce qu'on a accaparé des terrains pour construire des hôtels. Ça peut aussi être le facteur travail. Pourquoi? Parce que en créant plus d'emplois, ça peut générer un accroissement de la rémunération du facteur travail, Et du coup, ça rend les autres secteurs d'exportation moins compétitifs. Pourquoi ? Parce que les salaires augmentent, donc on ne peut plus exporter des produits textiles ou autres.
Maria Gravary-Barbin.
Moi, je pense que nous vivons, pour nous, chercheurs en tourisme, des temps formidables. Parce que nous arrivons effectivement à un moment où, dans plusieurs pays autour du monde, le tourisme est clairement identifié comme un nouveau secteur de développement, et le cas, en fait, de l'Équateur va totalement dans ce sens-là. Et au même moment, effectivement, tout un ensemble de pays qui ont connu le tourisme depuis plusieurs années considèrent aujourd'hui qu'il faut passer à d'autres modèles. On est vraiment, je pense, à une fracture actuellement qui me semble extrêmement intéressante à analyser. Vous évoquiez tout à l'heure tous les conflits, en fait, dans les pays qui sont entrés dans le tourisme beaucoup plus anciennement, y compris la France, et bien entendu tous les pays européens. L'été 2017 a été effectivement un été tout à fait parlant de ces conflits émergents dans les anciennes en fait pays touristiques du monde. Donc c'est extrêmement intéressant de voir comment toutes ces questions touristiques se posent aujourd'hui et de voir que l'aspect le plus important pour les pays qui entrent en tourisme est effectivement de pouvoir le faire dans un contexte de empowerment. Je ne trouve pas la traduction pour ces termes-là, mais qui me semble un terme tout à fait parlant, c'est-à-dire pouvoir effectivement jouer avec des règles, avec les mêmes règles, si possible, que les pays qui ont déjà un passé touristique.
Alors, cette écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI, nous parlons du tourisme, nouvelle religion mondiale. Pas forcément la solution miracle que l'on croit, avec deux invités, Maria Gravary-Barbas, professeure de géographie à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Monder Sali, professeur associé d'économie à la Victoria University à Wellington, en Nouvelle-Zélande. L'Indonésie est le plus grand archipel du monde, il y a plus de 16 000 îles, et Bali est de loin la plus touristique d'entre elles, ce qui tente à transformer cette petite île bouddhiste, ornée de temples, et agrémenté, si on peut dire, de rizières, en un immense village vacances. L'argent que génère ce tourisme de masse aiguise toujours davantage l'appétit des investisseurs qui cherchent à multiplier les investissements touristiques, parfois contre la volonté de la population locale. C'est le cas dans le sud de l'île, du côté de la baie de Benoa, et c'est un reportage écho d'ici écho d'ailleurs, signé Joël Brunner à Bali, en Indonésie.
Surnommée l'île des dieux sur les dépliants publicitaires, Bali s'est progressivement transformée au cours des dernières décennies en l'île d'un dieu unique, le dieu tourisme. Avec plus de 4,5 millions de visiteurs en 2016, la manne touristique pousse les investisseurs à vouloir exploiter au maximum la marque Bali qui est connue dans le monde entier. Et ce notamment en construisant toujours plus d'hôtels de luxe à deux pas de la mer. Sur cette île de 5500 km² déjà très développée par l'industrie touristique, les façades maritimes vierges sont à présent de moins en moins nombreuses. Pour contourner le problème, certains n'hésitent pas à vouloir réaménager l'espace pour créer des plages artificielles. Tel est notamment le cas du projet de réaménagement de la baie de Benoa, dans le sud de Bali, qui suscite la contestation de la population locale. Jerings fait partie d'un groupe de rock punk, en pointe dans cette opposition. Avec d'autres groupes balinais, ils ont érigé une chanson, Bali Tolak Reklamasi, Bali rejette le réaménagement, en symbole de la résistance à ce projet.
Il y a plusieurs investisseurs de Jakarta, soutenus par beaucoup de personnes influentes ici, qui veulent faire une nouvelle île dans le sud de Bali. Leur objectif est de réaménager une plage de plus de 800 hectares. Nous craignons notamment que cela ne détruise la biodiversité de cette partie de l'océan, que les pêcheurs perdent leur gagne-pain et que les populations locales se retrouvent marginalisées. D'autant que le sud de Bali a déjà un tas de problèmes à affronter. Le manque d'eau potable, l'excès de déchets, les embouteillages, la criminalité, etc. Et là, ils veulent rajouter une espèce de Disneyland avec des tas d'hôtels de luxe. Nous ne sommes pas opposés au développement en soi, mais nous sommes opposés au développement imposé uniquement par les forces de l'argent.
Pour comprendre l'agacement des opposants à ce réaménagement, il faut dire que cette baie de Benoa était jusqu'en 2014 une zone protégée. Et c'est lorsque les investisseurs ont commencé à s'y intéresser que le président de l'époque, Susilo Bambang Yudhoyono, a finalement transformé le statut de la baie en une zone dite économique et commerciale. Réunis dans le collectif Fort Bali, Les opposants, qui ont déjà organisé plusieurs manifestations hostiles au réaménagement de la baie ces dernières années, ne désarment pas. Leur objectif, ne pas se faire confisquer leur île par les seuls intérêts financiers de la monoculture touristique qui sévit à Bali.
Un reportage à Bali signé Joël Bronner. Je reprends la formule de Joël Bronner, la monoactivité touristique. On a l'impression là qu'il y a une concurrence, un affrontement même entre des intérêts divergents, le capital touristique et les populations locales qui veulent bien du tourisme, mais comme ce que vous appeliez, Maria Gravary Barbas, une activité de cueillette. C'est réel, ça se
tient. Alors, là, c'est plus qu'une activité de cueillette. Là, c'est clairement le gouvernement central indonésien qui décide, en fait, de l'implantation de cet énorme projet que j'ai suivi un peu parce qu'on a été, bien entendu, alerté par nos collègues universitaires de Bali dans les cadres de coopération que nous avons. Et c'est tout à fait intéressant de voir effectivement cette montée d'opposition actuellement d'une société locale qui, justement, aujourd'hui, a la capacité en fait, de monter un conflit, ce qui, sans doute, n'aurait pas été le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, elle a la capacité, elle a les discours, elle a les arguments. Et donc, il est très important de voir comment tout ceci se met en place par la volonté, en fait, d'un gouvernement central et l'opposition de cette île de Bali qui est effectivement une exception en Indonésie pour tout un ensemble des questions qui ont été très bien étudiées par les anthropologues.
Mandar Sali, est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai affrontement entre les capitaux internationaux ou parfois locaux, nationaux, qui veulent s'investir dans une activité touristique à haut rendement et le système économique local?
En effet, s'il n'y a pas de concertation avec la population locale, si la population locale n'est pas concernée, n'est pas impliquée dans le processus de développement touristique, après une période, elle va rejeter. C'est le cas notamment dans des grandes villes que vous avez citées tout à l'heure, au cas de Barcelone avant les attentats, on a vu des gens qui rejetaient le tourisme. Donc la population locale doit être dans le processus de développement touristique.
Alors, Maria Gravary Barbas, il y a une question qui se pose souvent. On a l'impression que ces gens qui travaillent dans l'industrie touristique sont des gens qui sont précaires et qui ont peu de formation finalement, que le tourisme comme activité économique ne génère pas de formation qui permet fondamentalement à un pays de se développer. Est-ce que c'est une impression erronée?
Alors, on ne peut absolument pas généraliser. Il est vrai, effectivement, que les tourismes génèrent aussi des emplois qui sont saisonniers, précaires et mal rémunérés. Mais il est vrai également que de plus en plus que le tourisme se développe, surtout dans les pays qui ont effectivement une préhistoire touristique, ces compétences dans le tourisme augmentent et surtout se diversifient. Et aujourd'hui, effectivement, bon, il y a des formations, y compris dans les pays à voie de développement, qui sont d'une certaine sophistication et qui cherchent à positionner, par exemple, donc l'université du Dayana, pour parler à Bali, où il y a d'excellents programmes de formation en tourisme, et qui cherchent donc à positionner le tourisme à ce niveau qui, effectivement, lui correspond aujourd'hui. À l'échelle mondiale, c'est quand même 10% presque du produit, des produits. Donc, il est important aujourd'hui de pouvoir proposer des formations réfléchies, sophistiquées, correspondant effectivement à ces capacités économiques du tourisme.
Mandar Sali, sur cette question de la formation, vous participez aux formations de gens qui vont travailler dans le secteur touristique?
Oui, dans le cadre de notre université.
Oui. Et ce sont des gens de quel niveau, quel métier vont-ils exercer?
En fait, le tourisme en Nouvelle-Zélande est un tourisme assez spécifique. Il est complètement différent d'un grand nombre de pays développés en développement. Pourquoi? Parce que en Nouvelle-Zélande, on ne cherche pas à accroître le nombre de touristes. La stratégie du pays est d'accroître le yield, c'est-à-dire le rendement par touriste. C'est-à-dire, on cherche plus à ce que les touristes dépensent dans le pays et non pas, comme on a pu le constater tout à l'heure dans votre
à Bali
ou autre, hein, où on cherche à accroître le nombre de touristes. Souvent, on se contente des recettes touristiques. Donc, le succès est donc vérifié à partir du nombre de touristes et des recettes brutes. Or, en réalité, si on veut promouvoir le tourisme, on doit plutôt chercher à accroître les dépenses des touristes la dépense moyenne des touristes et non pas le nombre de touristes. Et donc, pour revenir à votre question sur l'emploi, si on cherche à maximiser la recette par touriste, donc forcément, on va créer plusieurs produits qui s'adaptent aux besoins du touriste. Et donc, on crée plusieurs profils d'étudiants.
Mais cet argent que dépensent les touristes, est-ce qu'il reste dans ces pays, en particulier dans les pays en développement, ou est-ce qu'il est exporté? Parce que, par exemple, quand un touriste va dans un club de vacances d'origine française ou autre, quand il va dans une chaîne d'hôtels internationaux, l'argent ressort, Maria Gravary.
Bien sûr, évidemment. Et ces pourcentages des fuites est tout à fait variable. Il peut aller, dans certains cas, à 60 ou 70%.
En fait,
des sommes qui sont, dans plusieurs cas, dans plusieurs pays en voie de développement.
Lesquels?
Je ne peux pas vous citer d'exemple de pays en particulier, mais ce n'est certainement pas le cas de Bali. Là, effectivement, ces fuites ont été beaucoup plus anticipées et contrôlées. Alors, concernant ces fuites, oui, effectivement, par définition, parce que, par exemple, plusieurs pays, pour construire ces complexes hôteliers, parfois, ils se sont endettés. Et les remboursements de ces dettes, bien entendu, génèrent des fuites. Ça peut être aussi parce que, pour construire ces grandes infrastructures hôtelières, il faut importer des matériaux, il faut également importer des biens de consommation qui sont aujourd'hui parfois demandés par ces clientèles internationales qui fréquentent certains parmi ces hôtels. Et aussi parce que, lorsque les investisseurs sont internationaux, rapatrient bien entendu une partie de ces recettes. Mais encore une fois, là, nous sommes dans un contexte qui se planifie et qui s'organise. Et cela revient également au pays de pouvoir faire en sorte à ce que ces fuites soient minimisées et contrôlées.
Anders Ali, exemple?
Oui, je peux citer des exemples. Par exemple, en Gambie, des études en...
Rapprochez-vous du micro, Anders Ali.
En Gambie, on estime que plus de 60% des dépenses touristiques sont rapatriées dans les pays
d'investissement.
Les pays étrangers, dans le sens où on importe des biens, des rapatriements de profits, etc. Donc, aux Bahamas, par exemple, 85, sur $1 dépensé par un touriste, 85 centimes quittent le territoire. Même dans un pays développé comme la Nouvelle-Zélande, c'est autour de 15%. C'est-à-dire sur $1 dépensé par un touriste, 15 centimes repartent vers l'étranger sous forme d'importation de biens, profits, rapatriement des salaires, etc.
2017, selon les Nations Unies, c'est l'année du développement durable, ça vous parle à tous les deux, bien sûr. Est-ce que ça veut dire que la communauté internationale commence à considérer que le tourisme n'a pas que des retombées positives et qu'il faut s'en occuper?
Oui, mais je pense que cela veut dire aussi que la communauté internationale comprend qu'il y a des responsabilités à prendre clairement vis-à-vis de ces phénomènes touristiques. Et on comprend aujourd'hui qu'on ne peut plus continuer à fonctionner dans cette espèce de laisser-aller, dans certains cas. Donc on demande plus de planification, plus de structuration, plus d'organisation.
Plus de régulation.
Plus de régulation, clairement plus de régulation. Enfin, encore une fois, les phénomènes récents et les conflits montants en tourisme montrent que cette régulation est aujourd'hui exigée par les populations locales.
Anders Ali, il faut plus de régulation.
Tout à fait, il faut...
Vous travaillez sur le développement durable et le tourisme dans les pays en développement. Est-ce que ces pays sont armés pour faire face à un investisseur qui viendrait et dirait je propose $100 millions pour construire un gigantesque complexe hôtelier, ça fera 1000 emplois. Et est-ce que les pays en développement sont armés pour y faire face?
En fait, de nos jours, il est clair que dans la conception plus récente du développement, il est clair que tout projet touristique n'est plus évalué seulement du point de vue économique, c'est-à-dire la création d'emplois, l'apport en termes de devises. Aujourd'hui, on doit tenir compte de la capacité du projet touristique à diversifier l'économie locale, à agir sur le social, à agir sur l'environnement, etc. Aujourd'hui, la conception des projets touristiques est complètement différente de celle qui prévalait il y a 20 ou 30 ans. Avant, on privilégiait l'aspect quantitatif, le nombre de touristes, le nombre de nuitées dans les hôtels. Aujourd'hui, on doit tenir compte de la population locale, de l'environnement, etc.
Et puis, ça va totalement dans l'essence de la demande des clientèles touristiques. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de personnes qui acceptent, en fait, vivre dans un environnement totalement cloisonné, sachant que autour d'eux, les populations locales souffrent. Et on le voit très bien dans la façon dont les grands groupes hôteliers, par exemple, réagissent par rapport à cela. Aujourd'hui, leur responsabilité est de plus en plus engagée. Ils savent pertinemment que il faut construire dans les normes environnementales les plus adaptées, les plus avancées parfois. Ils savent qu'il faut travailler avec les communautés locales, qu'il faut recruter en fait des locaux. Donc on est quand même dans une évolution qui va dans ce sens-là.
Eh bien, c'est le mot de la fin, Maria Gavary-Barba. Cette émission est maintenant terminée. Guillaume Munier l'a réalisée et mise en onde. Merci à vous deux, Maria Gavary-Barba, Simander Sali, d'avoir accepté l'invitation de RFI. Cette émission peut bien sûr être réécoutée, podcastée, comme on dit, sur le site web de RFI, www.rfi.fr. Pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.